Alors, cette semaine, dans les réunions de groupes de quartier, nous avons eu pour sujet la visibilité du Créateur, à savoir Dieu, dans sa création, dans la nature. Donc. Alors, nous avons eu chacun dans notre groupe sur Zoom des idées de choses qui nous émerveillent, plus ou moins, dans la création de Dieu. Alors, que ce soit dans les toutes petites choses, comme les insectes, ou dans les choses énormes, très grandes, comme les étoiles, que ce soit aussi dans le fonctionnement, tout simplement, du corps humain, dans ce qui est visible, comme un parterre de fleurs, ou dans ce qui est invisible, comme la semaine dernière, le vent qui a soufflé très très fort, mardi dernier. Nous pouvons dire que nous sommes confrontés tous les jours à cette création merveilleuse de Dieu. Alors bien sûr, parmi toute la création, on peut avoir nos préférences. On a peut-être des préférences particulières, en tout cas moi, pour le soleil plutôt que la pluie. On peut aussi peut-être préférer le chat au rat. Même si tout ça fait partie de la création. Alors il y a quelques semaines aussi également, Sheila nous avait pris l'exemple d'un parterre de forêt, où elle avait montré une photo d'un gland tombé à terre et qui commençait à germer. Donc elle avait commencé par une photo assez large et assez globale, où on ne voyait pas grand-chose, et elle a zoomé ensuite sur quelque chose qui commençait à prendre vie, même si ça ne se voyait pas de loin. Alors aujourd'hui, je vais me permettre aussi de prendre pour exemple cette belle nature qui nous entoure. Et je vais prendre un exemple en m'appuyant sur une illustration de Jésus lui-même. Alors en fait, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois quand je ne comprends pas tout de suite toutes les illustrations que Jésus prend, et parfois quand je lis dans un texte de la Bible cette phrase « Ils ne comprirent pas tout ce que le Seigneur leur disait », alors je suis un peu soulagé, parce que je me sens moins seul. Alors, je vais vous montrer une photo. Sam, si tu peux l'afficher. Vous allez peut-être me voir venir. Voilà. Alors, il s'agit d'un de mes citronniers. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des citronniers que j'ai fait germer, etc. etc. Et voilà. Je vous avais laissé la dernière fois sur... Au dernier épisode, je vous ai laissé en disant que mes citronniers de 5 ans avaient bien grandi en hauteur et qu'ils avaient atteint à peu près ma taille, donc cette taille-là. Alors me revoilà, encore une fois, avec mes petits arbustes. Alors aujourd'hui, plus aucun citronnier n'a ma taille. Alors pourquoi ? Parce que j'ai coupé les branches, voilà, j'ai coupé les branches rectilignes qui prenaient de la hauteur, en fait. Donc j'ai réduit leur taille d'à peu près de moitié, donc ils ont à peu près cette taille-là. Et ce que vous voyez ici au milieu, la partie blanche, c'est l'ancienne branche qui donnait sa hauteur au plant. Et quelques jours après cette coupe, des nouvelles petites branches avec leurs feuilles ont commencé à pousser autour de l'ancienne. Et je pense que d'ici l'été, cet arbuste aura pris un peu plus en volume, donc un peu plus en largeur. Et d'autres branches vont peut-être encore pousser de manière rectiligne, ou vont pousser dans une direction qui gênerait la pousse des autres. Et au printemps prochain, l'année prochaine, je répéterai la même opération en taillant encore une fois. Alors je ne suis pas du tout un spécialiste de la botanique, et peut-être que parmi vous, certains botanistes sont présents ici aujourd'hui. Ils vont peut-être me maudire pour ce que j'ai fait. Mais ce que j'observe, c'est que jusque-là, mes citronniers ont résisté à mes assauts et ils se portent bien. Alors, notre passage de ce matin ne va pas parler de citronniers, mais de vignes. Donc, sans transition, je vous propose de lire notre texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, et nous allons lire les deux premiers versets, et je lirai dans la version seconde. Jean 15, versets 1 et 2. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors nous sommes ici en présence des paroles de Jésus qu'il adresse à ses disciples. Michael en avait lu une partie tout à l'heure ce matin dans le chapitre 14. Et nous sommes dans les derniers temps avant l'arrestation de Jésus. Judas est déjà parti, donc il a quitté le groupe. Il va revenir ensuite, quelques temps après, avec ceux qui vont arrêter Jésus, ceux qui vont le condamner, le torturer et le mettre à mort, le crucifier. Jésus est donc ici en petit comité et avec les siens, il va adresser ses derniers encouragements, mais aussi ses mises en garde. Alors, ces paroles de Jésus ont dû être assez poignantes pour ses disciples, même s'ils n'avaient peut-être pas tout compris de ce qui allait se passer juste après. Et si elles étaient poignantes à cette époque, je pense que ces paroles sont aujourd'hui aussi très parlantes pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle, qui sommes situés cette fois-ci de l'autre côté de l'histoire et qui savons que Jésus allait être mis à mort peu après ce passage, peu après cette histoire. Alors, à travers ce court passage, je vous propose de voir combien le vigneron, qui est Dieu, est le plus à même de savoir ce qu'il doit faire des sarments que nous sommes. Nous verrons que ce Dieu qui nous façonne et qui nous taille, il sait ce qu'il fait. Contrairement à moi qui me tâtonne un peu avec mes citronniers. Dans notre texte, Jésus nous plante le décor. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Donc en disant ça, Jésus annonce clairement qui il est et quel est son rôle dans le plan de Dieu son père. Il dit, je suis le vrai cep. Alors sans doute qu'il voulait mettre en garde les disciples contre les faux prophètes qu'ils ont déjà peut-être vus dans le passé et qu'ils verront encore par la suite. Jésus est le seul unique envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, par lequel nous pouvons avoir le salut. Il est le vrai cep. Alors ce n'est pas non plus un révolutionnaire un peu indépendant, qui aurait monté une secte de toutes pièces, non. Il dit que c'est Dieu qui est le vigneron. Et lui, il est celui par lequel nous devons passer pour accéder au Père. Il est le vrai cep, et son Père, notre Père, est le vigneron, celui qui s'occupe de la vigne. Alors sur ce cep, vous voyez tous ce que c'est un cep, c'est le pied de vigne. Sur ce cep qu'est Jésus, il y a deux sarments. Celui qui ne porte pas de fruit, d'un côté, et celui qui porte du fruit. Il n'y a pas d'intermédiaire ici, vous le verrez. C'est très très binaire, c'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de « oui, je porte un peu de fruit, mais voilà ». Pas trop non plus. Je vous propose donc de voir successivement ces deux types de sarments que nous indique Jésus dans ce passage. Alors tout d'abord, le sarment sans fruit. Il est intéressant de voir que ce sarment qui ne porte pas de fruit, c'est pas en fait un sarment qui pousserait sur un cep extérieur ou sur une parcelle éloignée, sur la parcelle du voisin. Qui pousserait sur un cep qui n'est pas le vrai cep, non. ce sarment, en fait, il semble bien pousser sur le vrai cep. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ce que Jésus veut dire ici? Alors on peut avancer deux hypothèses. On pourrait dire que ces sarments pourraient représenter des personnes qui sont réellement attachées au Seigneur et qui sont nées de nouveau. Mais alors, puisqu'elles sont enlevées, est-ce qu'elles perdraient leur salut? Première hypothèse. Deuxième hypothèse, au contraire, ces sarments pourraient représenter des personnes qui n'ont pas accepté le salut du Christ. Mais alors pourquoi Jésus aurait dit « Tout sarment qui est en moi ?» Alors c'est pas toujours facile comme approche. Si on prend en compte la première hypothèse, selon laquelle ce sont des personnes qui auraient accepté Christ dans leur vie, ça voudrait dire que leur salut leur a été enlevé. Et le mot traduit ici par « retrancher » ou « couper », selon les versions, c'est le grec « airo » qui signifie littéralement « enlever », ôter, prendre. Il s'agit donc littéralement d'un acte d'arrachage, de coupe nette. Les personnes sont arrachées de la vie que Christ donne. Alors si on considère ces personnes comme étant des chrétiens, chrétiennes plutôt, puisque ce sont des personnes, qui pourraient perdre leur salut, on va en fait à l'encontre de tout le message de l'Évangile. Une personne qui est à Christ pour l'éternité. Autrement, le salut serait juste méritoire. Et on n'aurait aucune assurance du salut jusqu'à notre mort et au-delà. Ça serait une pure angoisse, en fait. On vivrait notre vie en espérant un salut futur sans jamais en être sûr. Donc il semble que cette hypothèse ne soit pas la bonne. Alors, seconde hypothèse, ces sarments symbolisent les personnes qui ne sont pas à Christ. Mais pourtant, Jésus dit, tout sarment qui est en moi. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Je pense que la clé de compréhension de ce texte se trouve dans la deuxième partie de la phrase, et qui ne porte pas de fruits. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits. La parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 12, 33, par exemple, « Car on connaît l'arbre par son fruit. » Dans Galates 5, 22, « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Jacques 2, 18, « Si la foi reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. » Alors, ne nous égarons pas. Les actes ne sauvent pas, la foi seule sauve. Mais une foi qui n'est pas suivie d'actes est en fait une foi qui est déjà morte, qui est morte à la base. Une foi qui ne transforme pas la personne et l'amène à ressembler de plus en plus à l'objet de sa foi, à savoir Christ, c'est une foi complètement sans fondement. Une foi non pas fondée sur Christ, mais fondée sur soi-même. Ce serait peut-être une sorte de développement personnel, tout au mieux. Alors prenons garde, les amis. Peut-être que ça fait des mois, des années, qu'on entend le message de l'Évangile. Peut-être que nous suivons les habitudes de tout le monde, que nous avons un sourire évangélique à donner à tout le monde le dimanche matin. Peut-être même que nous enseignons à l'église ou que nous sommes impliqués et assidus dans les activités et dans les services. Mais si ça ne reste que de la façade, ce que la parole de Dieu nous dit, mais si cela reste de la façade, que ce que la parole de Dieu nous dit n'est qu'une parole parmi tant d'autres, et que nous n'avons pas réellement et sincèrement fait le pas de foi, et nous n'avons pas tout abandonné à Dieu, à Christ, alors malheureusement, on pourrait faire partie de ceux que Jésus dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, Dieu le retranche. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est toujours aujourd'hui, en train de nous appeler à revenir à lui. Il viendra le temps où il retranchera ceux qui auront fait semblant, mais aujourd'hui est encore un jour de grâce, un jour d'appel. Dans notre texte, Jésus parle aussi des sarments qui portent du fruit. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Aïe. Finalement, personne n'est épargné, en fait. Celui qui est en Christ, qui a réellement fait le pas d'accepter le salut de Jésus, et qui, en plus, porte du fruit, eh ben, Dieu l'émonde quand même. Dans certaines versions, on a le verbe « purifier » au lieu d'émonder. Alors, je vais vous donner la signification du verbe émonder que j'ai trouvé dans le Larousse. Ça signifie débarrasser quelque chose de superflu et l'en dépouiller. Donc enlever qu'il y a quelque chose de superflu sur quelque chose. Mais alors, on pourrait se dire, si on porte du fruit, pourquoi est-ce qu'on se fait tailler ? Alors, je ne sais pas vous, mais c'est une question que je me suis longtemps posée et que je continue parfois de me poser lorsque je me retrouve en plein milieu d'une épreuve qui est très, très inconfortable ou que je me sens être dans un bon mood, une bonne dynamique et que je suis stoppé net dans mon élan. Alors là, je voudrais revenir sur l'image de mon citronnier. La branche, en fait, qui avait poussé jusque-là, qui avait atteint ma taille, elle était très vigoureuse et elle avait poussé rapidement en donnant de belles feuilles. Alors malheureusement, j'ai pas encore de fleurs pour l'instant, j'ai que des feuilles. Mais c'était une branche unique. Une branche, en fait, qui donnait un aspect un peu trop fin et un peu trop disgracieux à l'arbuste. Et une fois la taille faite, les nouvelles petites branches qui ont poussé autour se sont multipliées et ont donné plusieurs feuilles, et ce qui va donner ensuite un aspect un peu plus harmonieux à l'ensemble de l'arbre, de l'arbuste. Alors je ne suis pas un spécialiste de la vigne, mais je pense que le système est le même. J'ai testé sur un figuier aussi, et ça fait la même chose. J'ai coupé. Quelques jours après, c'est sorti comme une main, comme des doigts. On arrange les sarments qui donnent du fruit, on les taille pour que les fruits soient encore plus abondants par la suite. Alors c'est facile à dire, hein, et je ne veux surtout pas avoir l'impression d'être un donneur de leçons aujourd'hui, mais ce que Jésus nous dit ici, c'est que lorsque nous avons l'impression que Dieu nous coupe l'herbe sous le pied, qu'il nous arrête alors qu'on était bien lancé, eh bien, c'est pour notre bien, d'une part, et pour sa gloire, de l'autre. Alors, un petit mot de témoignage personnel. Je me souviens, il y a un peu plus de 10 ans, je voulais me destiner à une carrière dans la finance d'entreprise. Et ce qui me motivait, en fait, dans cette voie-là, c'était le salaire confortable et le goût des chiffres. J'aime bien les chiffres. Mais à côté de ça, c'était une carrière qui signifiait qu'il ne faudrait pas que je compte mes heures et qu'il faudrait que j'oublie toute vie en dehors du boulot pendant quelques années. Et ce n'est pas une supposition que je me faisais, ces sacrifices à faire. Ce sont les personnes travaillant dans ce milieu qui ont clairement exposé tel quel les inconvénients du métier. Mais ça ne m'a pas freiné. Et j'ai commencé à chercher. J'ai cherché un poste dans ce secteur. Les semaines ont passé. Puis les mois. Et je me suis découragé. Tout ça pour ça. toutes ces années d'études. Alors j'ai traversé une période un peu compliquée, un peu difficile à ce moment-là, et un peu après aussi. Mais je sais que Dieu ne m'avait pas oublié. Il avait coupé une belle branche de mes ambitions. Il a laissé une plaie. Mais quelques temps après, alors non sans difficulté, j'ai trouvé un poste dans une association chrétienne. Et là, je me suis souvenu, en fait, d'une requête que j'avais faite à Dieu, sans réellement que je ne réalise ce que j'avais demandé. J'avais prié pour avoir un travail qui puisse me permettre tout de même d'avoir un bon équilibre entre le travail et le service pour le Seigneur. Et ce que j'ai eu, et c'est ce que j'ai eu, même si c'était à mille lieues des salaires que je m'avais imaginé, que j'avais espéré en étant dans mes rêves, ça m'a permis d'être pendant 8 ans au service de Dieu dans des œuvres chrétiennes. Au service de Dieu, des œuvres chrétiennes et des chrétiens. Alors aujourd'hui, j'ai changé de travail, mais je me suis rendu compte, avec le recul, que le Seigneur a conduit les choses, alors certes d'une manière qui ne m'a pas toujours plu sur le moment, mais qui a été salvateur pour moi. En revenant dans notre texte, dans notre contexte, les disciples, dans les années qui vont suivre la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, ils vont subir des tailles plus ou moins douloureuses. Et Jésus le sait, il sait par avance. C'est pour ça qu'il les encourage. Il leur a dit en quelque sorte, si vous êtes émondés par Dieu, et vous le serez, c'est pour que vous puissiez porter encore plus de fruits. Et nous faisons aujourd'hui partie des fruits de l'œuvre de Dieu à travers ses disciples. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Évangile est arrivé à nous par l'intermédiaire d'au moins un de ses disciples. Alors, chers amis, si nous suivons Christ, nous savons que ce ne sera pas une route sans cailloux. Nous savons que ce ne sera pas toujours une voie facile, que nous emprunterons parfois des voies sans issue, des impasses, parfois des chemins cabossés et minés de nids de poules. Parfois, nous serons peut-être stoppés dans notre marche, et peut-être même que c'est le cas de quelques-uns d'entre vous aujourd'hui. Un espoir déçu, des ambitions freinées, des difficultés qui s'accumulent, une ou plusieurs pertes, et on a l'impression d'être face à un mur. Mais Dieu, il est le vigneron. Il est tout-puissant et il est souverain. Il sait comment nous conduire, il sait comment orienter nos vies, il sait comment produire les fruits en nous, il sait à quel moment il va les produire. Il sait aussi quoi faire avec les produits que nous produisons. Un vigneron n'est pas un simple viticulteur. Il récolte les fruits, il le presse, il en fait du vin. Alors si une branche de notre vie est coupée, Dieu saura en faire pousser d'autres. La seule chose que nous devons faire est de nous attacher au cep, au vrai cep, Jésus-Christ. Jésus le dira un peu plus loin dans son autre passage, il le dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Aussi longtemps que nous serons attachés à lui, nous pouvons avoir l'assurance que nous serons toujours menés de la bonne manière. Alors c'est peut-être pas toujours de la manière la plus agréable ou la plus douce à nos yeux, mais ça sera toujours la bonne manière. Alors, mes amis, que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous dans votre marche. Nous avons tous le même chauffeur, nous avons tous la même destination, mais les chemins sont différents. Alors soyons fortifiés par l'assurance de la présence du Seigneur et de sa bonté, dans chacune de nos vies. Amen.